C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, eh bien nous revoilà, que c'est bon de vous retrouver. Merci hein, au passage d'avoir suivi les meilleurs morceaux de l'émission cet été. Bien manger et comprendre ce que nous mangeons, eh bien plus que jamais c'est notre mission chaque samedi ici autour de la table. Et je ne suis pas tout seul, vous pensez bien. Des arrière-cuisines aux dressages les plus sophistiqués, elle sait tout de nos chefs cuisiniers. C'est Charlotte Langrand du Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour Yves.
Ravie
bonjour
de vous retrouver. Charlotte.
Ravie bronzée, également.
Lamine. Elle est rayonnante. Son été a été studieux. Il l'a passé à cuisiner dans son restaurant de Saint-Germain-des-Prés. Yves Candebordes, le flamboyant, est avec nous.
Et bonjour Laurent, bonjour Charlotte. Bonjour. Et Laurent, j'ai passé un très bel été à Paris, mais je suis très heureux de vous retrouver.
Eh bien, plaisir partagé, camarade. Pimprenelle, girolle, mouron des oiseaux. Et si demain nous redevenions tous cueilleurs, on va parler cueillette avec le passionné de botanique Jean-Baptiste Coclair. Évidemment, il y a des règles à respecter. Il n'est pas question de cueillir n'importe quoi. Et sur les coups de midi, nous partagerons un beau plat de pâtes avec le comédien Arnaud Ducreil. Un bel appétit, vous entendrez. Sans oublier de nouveaux rendez-vous que vous allez découvrir tout au long de l'émission. C'est parti, sortez vos couverts les amis. Et Olivier Poul sera avec nous la semaine prochaine. Bien entendu, Jean-Luc Petit-Renaud également font toujours partie de la bande. Alors, c'est la reprise pour certains. D'autres sont encore en vacances. La rentrée des classes, c'est mardi prochain. En attendant, les amis, on va prolonger le goût de l'été. Quel est votre goût de fin de vacances, votre goût de fin d'été, Charlotte?
Le goût de fin d'été, c'est celui des figues, parce qu'elles sont, oui, elles annoncent un peu la rentrée, mais elles se sont gorgées du soleil de tout l'été, comme ça. Donc du coup, ça nous ramène un petit peu en vacances. Donc j'adore, je les fais rôtir ou je les croque directement, mais rôti comme ça, un petit peu au four, avec un petit peu de miel ou un petit peu de noisette concassée.
C'est de la bombe.
Ouais, c'est de la bombe.
Vous enlevez la peau ou pas quand vous allez manger cru?
Même pas.
Non, moi non plus. J'adore ça. Je pense que c'est vraiment le fruit sensuel par définition, moi, la figue. Sur sa petite robe, ce cachet de chair rouge croquante, c'est le fruit défendu pour moi, la figue, plus que la pomme.
Ouais, et puis il y a de la gourmandise, parce qu'il y a de l'onctuosité, il y a juste ce corps gras qu'il faut, le bon gras qui fait qu'on a une bouche choyeuse et surtout qui est très plaisante. Mais aller les cueillir sur les arbres, quel plaisir.
Ah oui.
Parce qu'en général, il faut sauter la clôture, monter sur le muret et les voler.
On en reparlera tout à l'heure. On va vous donner des trucs pour les cuisiner. Votre goût de l'été ou de la fin de l'été, Yves Candebordes?
Ah, mon goût de fin d'été, c'est l'or béarnais, le haricot maïs, ce fameux haricot qu'on plante en même temps que la graine de maïs. Et le pied de haricot s'enroule sur le pied de maïs et est protégé. C'est-à-dire que les feuilles de maïs sont comme un parapluie, protègent l'haricot du soleil. Et on a un haricot qui a une peau très 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 fine et très onctueuse.
Oui, il n'y a pas besoin de le faire tremper celui-ci.
Il n'y a pas besoin de le faire tremper, on le fait en direct. Et une petite recette rapide, un houmous d'haricots maïs béarnais. Vous prenez une recette d'houmous
traditionnel de pois chiche.
Traditionnel de pois chiche, vous remplacez le pois chiche par l'haricot maïs béarnais et vous allez voir, vous allez avoir une recette onctueuse, originale et qui sent bon le pays d'Henri IV.
C'est la vraie permaculture, ça, avec ce haricot qui grandit avec le maïs juste à côté.
C'est deux plantes qui s'épousent et qui se protègent pour le bonheur de nos papilles.
Et qui se font du bien, un vrai couple, quoi.
Et vous, Laurent, votre goût de l'été, alors?
C'est la tomate, moi. Ah. Je suis dingue de tomates. C'est la vraie pleine saison de la tomate. Mais c'est vrai que je l'ai cuisinée à toutes les sauces. J'en ai fait des farcis. J'ai fait la panzanella, vous savez, cette salade de tomates italienne avec justement du pain rassis pour ne pas gâcher. Et puis une belle vinaigrette comme ça qui vient épouser tout ça. Et puis la fameuse mozzarella. Je l'ai cuisinée à toutes les sauces. Et pour moi, c'est vraiment le moment de manger la tomate. C'est encore mieux que début juin quand elles ont débarqué. C'est vraiment maintenant qu'elles sont bien molles et bien mûres, quoi.
Et on est en pleine saison, Laurent. C'est vraiment la pleine saison et elle va durer parce qu'on arrive à en trouver même pratiquement jusqu'au mois d'octobre.
Mais carrément, ouais. Alors c'est l'heure de faire le marché, tiens, à propos. Et pour reprendre en douceur, eh bien les amis, on a suivi la route des vacances. Vous savez, ces petites cabanes de producteurs là, qui vendent des fruits et légumes au bord de la route. Eh bien, Julien Amat s'est arrêté devant la cabane de Pascal sur la D986 dans l'Hérault en direction de Ganges. Ça, c'est précis, je peux vous dire. Et attention, parce que c'est vrai que tous les vendeurs de bord de route ne se valent pas. Alors voici quelques petits trucs pour bien les repérer.
A priori, de quoi faire des crudités. Salade, carottes, et du concombre. On va faire des rouleaux de printemps. Ici, je suis sûr en fait qu'il y a une majorité de production locale parce que la plupart des cabanes sur les routes que je croise, c'est des gens qui achètent soit dans des marchés gares à pas cher, les mêmes trucs qu'on trouverait en supermarché.
Qu'est-ce que j'en ai acheté? J'en ai acheté des pêches, des nectarines, Bah, disons que c'est sur le trajet de mon travail, donc je m'arrête en rentrant du travail.
Déjà, il avait la serre juste derrière, donc on sait qu'il y a la moitié qui provient d'ici. Et après, en général, il met les provenances sur les pancartes. J'ai confiance.
Tout ce qui est tomate ancienne, ça vient de Vic-la-Gardiole. Et tout ce qui est pêche, les melons de Moggio. Et tout ce qui est pêche et nectarine et abricot viennent du Gard.
Aujourd'hui, c'est la provision.
J'ai pris des melons, j'ai pris des raisins, j'ai pris des pêches.
Messieurs, bonne journée.
Merci.
Bonne journée, messieurs, dames. Et n'oublions pas que les prix sur ces cabanes-là sont accessibles parce qu'il y a du volume, c'est la pleine saison. On parle de vrais producteurs hein, qui ont les serres ou qui ont les terrains de maraîchage juste derrière
voilà,
les
côté.
Cabanes, à côté, et qui effectivement ont du volume. Donc on peut faire de belles affaires, plus que jamais encore. Hein. Soutenons les circuits courts, on l'a fait pendant le confinement, mais conservons cette belle habitude d'acheter à côté de chez nous, Yves Candebord.
Oui, il faut continuer parce que c'est vrai ce rapport qu'on peut avoir avec le paysan qui prépare ses légumes, ce maraîcher, ça vous met déjà en appétit, votre recette est pratiquement déjà réussie.
Oui, il n'y a plus grand-chose à faire, le produit est de grande qualité. Une adresse comme ça d'une petite production locale ou d'un circuit court que vous auriez repéré cet été, Charlotte?
Alors moi j'ai repéré en Corse, dans le Cap Corse, pas loin de Saint-Florent, vous avez un, bon c'est un restaurant aussi, mais qui a son propre potager, le potager du Nebbio. Ils vendent leur propre production, de leur propre potager. C'est vraiment bon.
Yves. Alors moi, j'ai une petite adresse, mais c'est vraiment un maraîcher qui a sa petite cahute au bord de la route, sur le pont entre Malmort et Merendol. On en est à la limite du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Il s'appelle Kinou et avec son épouse. Ils ont déjà, eux deux, la boulimie de la vie.
Salut
Kinou.
Ils
nous font des melons en ce moment exceptionnels. J'ai mangé, Laurent, des tomates qui faisaient 1 kg.
C'était
que de la chair, pratiquement avec aucun pépin, juste un trait d'huile d'olive, une fleur de sel. C'était à se rouler par terre.
Un steak végétal. Eh bien, ne bougez pas, on revient dans un instant avec les questions essentielles que vous vous posez en cuisine, amis auditeurs. Astuces, conseils, on va mixer tout ça.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Eh bien, c'est la reprise et nous sommes bien contents de vous retrouver. Avec un été à l'air libre, les retrouvailles avec la nature, c'est vrai, ont été intenses. Alors, on va partir en cueillette dans un instant. Les plantes, les herbes, les champignons. Nous serons avec un spécialiste, Jean-Baptiste Coquelaire, un passionné de botanique qui va nous aider à bien choisir et à faire le tri surtout. Mais avant, on va répondre aux questions que vous vous posez, amis auditeurs. Une astuce, un conseil sur un produit que vous ne savez pas cuisiner. Eh bien, Marion Sauveur est votre porte-parole. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion.
Ravi de vous retrouver, les radieuses. Regardez,
hein, voilà, c'est partagé.
L'été a été souriant.
Mais
alors,
oui.
On est en plein dans la période des jolis produits de saison. Mmh. C'est la fin de l'été, pas encore le début de l'automne. Il y a plein de questions sur la page Facebook du groupe Les Bons Vivants, sur le 3921. Donc on vous écoute, hein. Qu'est-ce qu'on a comme première question?
Oui, les auditeurs ont envie de recettes, de trucs et astuces que vous partagiez encore et encore.
Ben oui.
Et parmi les légumes d'été par excellence, il y a l'aubergine. Ah. On est nombreux à avoir mangé des tians, des ratatouilles, des petits farcis. Et l'une de nos auditrices raffole de ces aubergines, mais elle a besoin de votre aide pour les apprécier encore plus. Elle nous a laissé un message cet été sur notre répondeur au 3921.
Bonjour Laurent, c'est Brigitte de Vernoux en Seine-et-Marne. Voilà, j'ai un petit truc à vous demander. Je voudrais savoir pourquoi les aubergines, quand je les fais cuire, ça arrive très souvent qu'il y ait un petit goût d'amertume. Si vous pouvez me donner votre truc, ça m'arrangerait bien. Et puis, merci encore pour toutes vos émissions.
Oh, bien vous êtes gentille. À bientôt, Brigitte. À l'amertume, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça, effectivement, avec l'aubergine. Yves Candebord, ça peut peut-être venir de l'huile d'olive aussi, ou d'une huile qui est chauffée trop fortement, ou qui aurait brûlé pour apporter de l'amertume, parce qu'on sait que c'est le cas. Mais c'est vrai qu'avec l'aubergine, on peut avoir de mauvaises surprises d'amertume, parfois.
Ça peut arriver, même si aujourd'hui, quand même, on a beaucoup moins d'aubergine amère. En général, l'aubergine amère, c'est souvent la grosse aubergine. Mais l'amertume de l'aubergine vient souvent aussi du pédoncule et de la petite poussière qui se dépose sous l'aubergine.
Ah oui.
C'est les feuilles, parce qu'il faut beaucoup de feuilles au-dessus de l'aubergine justement pour qu'elle puisse vraiment pousser et prendre une belle couleur et une belle saveur. Donc il faut surtout bien les laver, enlever cette poussière, bien enlever le pédoncule et après ça, ne pas oublier une chose, surtout se laver les mains. Parce que l'amertume se dépose sur les mains et se transmet aussi très facilement.
Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est la même famille que la tomate et c'est des feuilles qui sont toxiques hein, d'ailleurs au passage, les feuilles de l'aubergine. Alors le caviar d'aubergine, moi ça c'est un truc que j'adore, j'en ai fait plein cet
c'est
été.
Délicieux.
Et je l'ai testé de plusieurs façons. Et à propos d'amertume justement, pour rebondir sur ce que disait Brigitte, je me suis rendu compte qu'il y avait des caviars d'aubergine plus ou moins amers. Et vous savez pourquoi? Parce que quand je mixe au blender par exemple ma chair d'aubergine avec l'huile d'olive et l'ail, eh bien les pépins vont être mixés et ils vont dégager de l'amertume,
ah,
les pépins
oui.
de l'aubergine. l'aubergine. Mais quand je hache la chair de l'aubergine pour faire mon caviar d'aubergine, eh bien mon caviar d'aubergine, il est beaucoup moins amer, par exemple. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte cet été. Donc pour le caviar, par exemple, si vous le trouviez trop amer, hachez-le au couteau, mais pas au mixeur.
Alors on va continuer sur les conseils de l'aubergine aussi, qui est important. C'est vrai que l'aubergine, on l'a dégorgée aussi avant régulièrement avec du sel.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Là, pour enlever l'humidité. Mmh. Et l'importance d'enlever l'humidité de l'aubergine quand elle est humide, c'est quand on va la poêler, elle va absorber beaucoup moins de gras.
Mais oui, ça
c'est une éponge, l'aubergine.
C'est une éponge.
Voilà, donc il faut lui enlever l'humidité.
Je ne cuisine pas l'aubergine.
C'est ça. Une aubergine qui soit bien sèche.
Autre produit de saison et sur lequel nos auditeurs ont des questions, c'est la figue, Marion.
Et oui, Charlotte, on en a parlé tout à l'heure. On est en plein dans la saison avec cette chair bien moelleuse et sucrée. Un vrai bonbon. On a reçu beaucoup de questions.
Un bonbon.
Et Brigitte s'inquiète d'ailleurs de les voir encore vertes à cette époque de l'année sur son arbre. Pascal, elle en a tellement qu'elle va les congeler entières et elle se demande d'ailleurs si c'est une bonne idée.
Ah, congeler la figue. Alors moi, j'ai jamais fait ça, moi.
On congèle tout, mais gustativement, ça n'a aucun intérêt. Faut pas se voler la face.
Et attention, la peau verte, c'est pas forcément un indice de non-maturité, parce qu'il y a des variétés avec une peau verte claire, quand même.
Oui, totalement, il y a différentes variétés. Et puis il y a aussi le fait que, en plus, le figuier fait 2 récoltes par an. Donc il faut prendre son temps, les laisser vraiment bien mûres. Alors, la congeler, pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire, faites de la confiture.
Mais oui.
1 kg de figue, 300 g de sucre, on fait bouillir un jus de citron.
Je crois qu'elle voulait les garder pour Noël, en fait, c'est ça.
Ça va être la confiture pour Noël, voilà.
C'est pas mal aussi.
Après, c'est vrai que pour Noël, pourquoi pas, avec le foie gras.
Ah oui,
alors moi,
oui.
J'ai une recette que j'adore, c'est les figues juste écrasées avec un expresso. Figue, café, foie gras, c'est un super mariage. Parce qu'on a le gras du foie gras, on a l'onctuosité de la figue et on a la petite amertume avec
le
café.
Beau, ça.
C'est un très bon mariage et c'est facile à faire.
Un autre produit de saison sur lequel nos auditeurs ont des questions, c'est la tomate, Marie.
Mais oui, justement, la tomate. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions. Esther, Olivier ou encore Philippe qui nous a d'ailleurs laissé un petit message. Et Yves, en tant que spécialiste, entre autres, de la tarte fine de légumes, la question vous est donc dédiée.
Bonjour à toute l'équipe, c'est Philippe Deville. J'ai une question, j'aime beaucoup la tarte à la tomate, mais à chaque fois que j'en fais, elle rentre beaucoup d'eau. Alors pourtant, je prends des bonnes tomates du marché et je voulais savoir si vous aviez une technique ou une astuce pour ça. Merci beaucoup, bonne émission.
C'est vrai qu'elle rend de l'eau, la tomate.
Oh, oui.
Oui, la tomate, c'est pratiquement, pas 100% d'eau, mais pas très loin. Ben, l'astuce, elle est assez simple, parce que compliquer les choses, c'est jamais bien en cuisine. C'est vraiment acheter des vraies tomates de plein champ. De terre. Parce qu'une tomate de terre, voilà, c'est un fruit qui va pousser, qui va souffrir.
Et qui est dense.
Et qui est dense. Et donc, il va avoir une maturité et il va avoir une tenue. Si vous achetez les fameuses tomates qu'on trouve en gouttière, que nos chers présidents adorent aller voir en Bretagne.
On en a parlé, reprends ça.
C'est des tomates qui sont. Il n'y a aucune tenue, ce n'est que de l'eau. Je pense que pour une tarte à la tomate, il ne faut pas lésiner. C'est une superbe tomate de champ, de pleine terre.
Et attention, pas de sel, parce que le sel fait dégorger la tomate. Donc, il ne faut pas saler quand on fait une tarte fine à la tomate. J'en ai fait beaucoup, moi, à la télévision cet été. Une pâte feuilletée que vous faites cuire 15 minutes au four entre deux plaques. Par-dessus, de la moutarde, façon Yves Candebord, par exemple. Des petites tranches de tomates intercalées avec des tranches d'oignons rouges. Et vous mettez ça 25 minutes au four. Et c'est uniquement après que vous mettrez du sel. Donc, n'hésitez pas, amis auditeurs, à poser vos questions à Marion Sauveur au 39-21, c'est pour vous. Et puis la page Facebook du groupe Les Bons Vivants sur Europe 1.
Et oui, on vous attend.
Et ne bougez pas Marion, on vous retrouve dans un instant avec le journal de la cuisine. On va prendre des nouvelles de nos restaurants et nous irons casser la croûte du côté de Pompéi. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants. On va vous emmener 2000 ans en arrière à la table d'une famille romaine dans un instant. Mais juste avant, c'est l'heure de votre journal de la cuisine, Marion Sauveur. Et il s'en passe des choses.
Ça n'arrête pas.
Au rayon alimentation, comme on dit. Voici les titres de votre journal. Plus de resto après 23h. Le boom de la vente à emporter et du chocolat tombé du ciel. Alors, on le sait, de 23h à 6h du matin, bars, épiceries et restaurants sont désormais fermés dans les Bouches-du-Rhône.
Et sans exception, la décision a été prise par la préfecture pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le virus circule activement dans la région. Bernard Marty, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, s'est insurgé contre cette décision. Il estime qu'on veut juste que Marseille serve d'exemple.
Et oui. Alors, on a changé de façon de manger depuis le confinement, Marion. Lyon. Hein.
C'est en tout cas le constat du cabinet spécialisé CHD Expert. Alors Charlotte Langrand, vous reviendrez vers midi et quart sur le bilan de l'été pour les restaurateurs. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que 70% des Français privilégient les restaurants peu fréquentés aujourd'hui. Et ils plébiscitent bien sûr la vente à emporter. Les clients attendent aussi plus de produits locaux à la carte.
Oui, la vente à emporter qui va pouvoir soutenir certains restaurateurs à continuer à fréquenter leur clientèle. Il neige du chocolat en Suisse, dites donc ça
oui.
Alors.
Après le vin dans les robinets en Italie, ça c'était en mars dernier, eh bien de la poudre de cacao est tombée du ciel dans le village d'Olten au nord de la Suisse cet été, il y a une semaine. La faute à un défaut dans la ventilation dans l'usine Lindt du village. Et le vent qui soufflait très fort ces derniers jours a donc propagé le chocolat un petit peu partout sur le village. Alors, amateurs de chocolat, ne courez pas jusqu'à Olten puisque la ventilation est maintenant réparée. Il n'y a plus de chocolat.
Merci Marion. Puis c'est quand même plus sympa que des métaux lourds ou que des cochonneries échappées d'une usine chimique tout de même. Merci Marion. On vous retrouvera dès la semaine prochaine avec d'autres rendez-vous et puis ce fameux journal de la cuisine. Alors vous le savez, bien souvent, la culture et la cuisine font bon ménage. De l'histoire à la petite histoire de nos assiettes, on va se mettre à table régulièrement le samedi. Et écoutez bien, il y a 2000 ans, l'éruption du Vésuve décime la ville de Pompéi et ses habitants. Et en ce moment, à Paris, au Musée de l'Homme, au Trocadéro, on peut voir ce que chaque famille avait dans son assiette avant la catastrophe. C'est assez saisissant. L'exposition s'appelle « Le dernier repas à Pompéi ». Et Julien Amat a rencontré Véronique Zec, commissaire de l'expo. Et écoutez bien, les Romains n'ont jamais été aussi proches de nous, malgré les 2000 ans qui nous séparent.
La magie des sites de Pompéi, c'est que tout a été figé en contexte. Et donc les restes végétaux qu'on présente ici dans cette exposition, ils ont été retrouvés associés aux ustensiles. On a retrouvé des fournées de pain, par exemple, en place dans les fours en cours de cuisson.
On a un pain noir carbonisé qui a 2000 ans devant nous.
Oui, tout à fait. C'est un pain de l'époque. Donc l'éruption a lieu en 79 après Jésus-Christ. Il est tout à fait semblable à un pain actuel. On voit des plats qui pouvaient permettre donc d'enfourner des préparations au four. Il y a des moules à gâteau, il y a des moules à pain.
Il y a même un moule en forme de cœur, ce qu'on peut retrouver encore dans les magasins aujourd'hui, c'est drôle.
Oui, 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 il y a des préparations très sophistiquées. Il y a une recette où on va utiliser du foie et le déguiser en poisson. On essaie un peu de bluffer ou d'étonner son public. C'est essentiellement le repas du soir qui avait une importance, où on sert des aliments plus rares.
C'est à ce moment-là qu'on dégaine le moule à gâteau en forme de cœur, par exemple.
Voilà, par exemple. Ici, on voit des gousses d'ail et puis des oignons et des échalotes donc carbonisées, des olives. On a non seulement le noyau, mais encore la chair qui est préservée autour du noyau. Donc, toutes les espèces qu'on voit dans ces représentations, qu'on retrouve sous forme carbonisée, elles existent encore actuellement.
Et c'est vrai que voilà, les Romains mangeaient pratiquement la même chose que nous. Et pour eux, c'était très important de se tenir à table longtemps. Le repas principal, c'était le dîner, ce qu'on appelle la scène. C'est bien loin des images d'orgie qu'on a, Charlotte.
Oui, c'est ça, c'est stop au fantasme, en fait. Si vous avez vu trop de cinéma...
À moitié nu avec la grappe de raisin,
voilà,
comme dans Astérix.
Arrêtez tout de suite, Laurent, ce n'est pas
voilà,
du
Jean-Luc
tout...
Voilà, Jean-Luc notre réalisateur rigole.
Je suis déçu, moi.
C'est exactement voilà, l'image qu'il a dit par Romain.
Je suis confuse, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout cette grande beuverie où on se goinfre comme on a pu le voir au cinéma. Au contraire, les Romains se tenaient très très bien à table.
Ouais.
Il y avait modération, c'était un moment, surtout un repas de représentation et d'éducation pour les enfants où ils apprenaient à prendre la parole en public. Alors, c'est très très loin de notre imaginaire.
Votre ancêtre de l'époque, si je puis dire, Yves Candebord, qui aimait les bonnes choses et la bonne chair, c'était Apicius quand même. Hein,
ah, totalement. Si je vous dis, Laurent, aujourd'hui au plat du jour, un hachis de porc fermier aux abricots allègres doux et veines de paille.
Moi, je dis Candebord, bistronomie.
C'est Apicius.
Ah, bah,
ça
voilà.
A 2000 ans. Il nous a laissé un traité de cuisine qui est d'une subtilité et d'une intelligence. C'est une recette. On avait le gras du cochon, l'acidité de l'abricot, le côté un peu oxydatif du vin de paille. C'est le
tout
mariage parfait. C'est une cuisine contemporaine de 2000 ans.
Et ben voilà, l'exposition s'appelle « Dernier repas à Pompéi ». C'est jusqu'au mois de janvier au Musée de l'Homme à Paris. Et à propos de grand homme qui aime la bonne chair, nous retrouverons Jean-Luc Petit-Renaud la semaine prochaine, vous pensez bien. Et si on se mettait tous à la cueillette, les amis, cueillette au potager, bien sûr, mais aussi dans la nature, c'est ce que nous allons faire avec le passionné de botanique Jean-Baptiste Coquelaire. Ce sera juste après Alioz qui chante comme des gangsters. Vous êtes les bienvenus si vous venez d'arriver, les amis. C'est la table des bons vivants. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Alors avec un été à l'air libre, hein, on le disait tout à l'heure, nos retrouvailles avec Dame Nature ont été intenses à tel point que de nombreux Français veulent vivre à la campagne. Une étude menée d'ailleurs en mai dernier annonce que 42% des Franciliens veulent quitter l'Île-de-France. Alors de la récolte du potager aux envies de cueillette, ce besoin de nature se retrouve dans nos assiettes, les plantes, les feuilles, les champignons. Et si on se mettait à la cueillette, Yves Candebord et Charlotte Langrand?
Pourquoi pas?
Bah écoutez, c'est ce que nous allons faire avec Jean-Baptiste Coquelair.
J'ai mon panier, moi, déjà.
Oui, il est bon,
on
n'y
est pas.
Jean-Baptiste Coquelair, un passionné de botanique, qui sort un très beau livre le 10 septembre qui s'appelle « Des cueillettes et des hommes » aux éditions de La Martinière. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors vous êtes pharmacien dans le nord de la France et cueilleur passionné. Vous sortez donc ce très beau livre. Ça s'appelle « Des cueillettes et des hommes ». C'est un manifeste pour une vie déconfinée, ça. Hein,
tout à fait. Une reconnexion à son environnement naturel, accessible à tous. C'est ça qui est très intéressant. On a tous une forêt de cœur, on a tous une petite prairie, une petite arrière-dune ou un pré salé si on va en baie de Somme. Par exemple, j'en parle de la baie de Somme qui est magnifique. Voilà, il faut retrouver des fondamentaux. Ce retour aux sources est nécessaire et vivifiant.
Alors attention de ne pas cueillir n'importe quoi. Il y a des règles, on va en parler parce qu'on a encore vu cet été, il y a eu des accidents. Votre livre, c'est une sorte de bible, hein, de répertoire des plantes sauvages, mais aussi des champignons, des fruits, des baies, des feuilles. Tous les goûts sont dans la nature. Alors,
hein. Des curiosités accessibles, encore une fois, je me répète, mais c'est pour montrer, genre, démocratiser la cueillette sans obligation de résultat. On n'est pas obligé de partir avec un objectif de ramasser telle ou telle plante. C'est la surprise qui fait le cadeau. Des fois, on revient sans rien. Mais comme je dis, on a toujours la mûre. Hein.
Oui, vous le dites, il ne faut pas se mettre la pression du résultat, hein, quand on part en cueillette.
C'est ça.
Et la mûre, toujours la mûre.
Mais oui. Tant qu'on n'a que la mûre.
Et on aura toujours la balade au pire.
Et c'est la saison. C'est la saison en plus de la mûre. Vous parlez beaucoup du Cambrésis, qui est la région autour de chez vous, qui est une région à cueillette. Oui, Yves Candebord fronce les yeux. C'est où? Expliquez-nous.
Le Cambrésis, donc Cambrai.
À Cambrésis, oui.
Cambrai. Et moi, je suis au Cateau-Cambrésis. Et c'est vrai que c'est peu connu comme ça géographiquement, mais c'est la ville natale d'Henri Matisse. Henri Matisse, le grand peintre.
Et qu'est-ce qu'on cueille de beau alors là-bas en cette saison dans le Cambrésis?
En cette saison, voilà, pas plus tard qu'hier et ce matin, même des pots trop minés, j'ai pu aller cueillir de l'oxalis, de la chili millefeuille, du caillé jaune, de la marjolaine sauvage, du lierre terrestre, de la berce. Je vous ferai sentir la berce qui est magique.
Le caillé jaune, là, vous en parlez dans le livre. Racontez-nous, parce que c'est une plante autour de laquelle il y a une petite légende en fait.
Voilà.
Hein.
Alors, comme son nom l'indique, ou pas, elle aurait une réputation de cailler le lait. Bon, on a essayé, plusieurs scientifiques se sont posés sur le sujet. Bon, il y a eu beaucoup d'échecs. Ce qui est très intéressant dans ce caillé, elle est mellifère, mais elle a un goût, une odeur de miel.
C'est une tige verte avec des petites fleurs jaunes, hein,
voilà,
en fait.
Une odeur de miel sans froisser. On a le miel dans le nez et on arrive à faire peut-être des petites recettes.
C'est des petites recettes.
Et là, c'est une plante de talus. Une plante qui pousse dans les talus.
Et vous dites, on peut la faire infuser, par exemple, pour faire une panna cotta ou ce genre de choses.
Alors là, c'est
parce
divin.
Que vous donnez des recettes dans le livre,
voilà,
aussi. Hein.
Est-ce qu'on peut la manger?
Là, on peut la manger.
Parce que au nez, je vais vous faire passer. On croque dans du miel.
C'est vrai.
On croque dans du miel.
Le caillé. Donc c'est un gaillé.
Ah oui.
Comme la même famille que le gaillé gratron, le gaillé blanc, le gaillé des marais.
Alors c'est étonnant parce que ça n'a pas du tout le même.
Voilà.
Ah oui. Donc, pas du tout. Alors entre le
donc il y a un travail au séchage. C'est un peu comme la spérule. La spérule, elle a cette odeur de vanille.
C'est un miel toute fleur, là, mais un miel toute fleur qui a du tempérament. Hein.
C'est inspirant.
C'est pas un miel d'acacia. Hein.
Oui.
C'est inspirant. Et cette nature, voilà, elle va nous proposer des audaces, des créativités. C'est les chefs qui ont magnifié ces produits sauvages, accessibles, encore une fois, mais avec une cueillette raisonnée.
Mais la nature, elle peut nous induire en erreur aussi, parfois. C'est pas parce que ça sent bon le miel
tout
que c'est forcément comestible.
C'est comme les champignons, c'est pas parce qu'il a une apparence agréable, jolie, avec des belles couleurs.
Le panier fait pas le cueilleur.
Non. Je vais dire quelque chose d'assez basique. Il faudrait apprendre d'abord les toxiques avant de connaître les comestibles. Pour éviter, il y a des subtilités, il y a des sosies, il y a des tromperies. L'humidité peut influencer. Donc il faut apprendre les toxiques d'abord. Et c'est l'avantage d'avoir fait des études de pharmacie.
Qu'est-ce que vous pensez du coup? Il y a certaines applications pour les téléphones maintenant où on propose de prendre des photos des plantes ou des plantes ou des fleurs qu'on voit et de vous sortir leurs fiches. Est-ce que c'est fiable?
C'est un outil, mais si on n'a pas le bagage, on va dire, de systématique, de connaissances, de regrouper, parce qu'on peut avoir plusieurs choix qui vont se sortir, il faut avoir un minimum de bagage. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut faire absolument des études de botanique et de mycologie pour être expert ou bien pour aller en cueillette, mais apprenez auprès de sociétés, d'associations locales, ça se développe. Il y a des jeunes passionnés. ou même les plus vieux, mais qui sont là pour vous donner les outils, la démarche, les bonnes pratiques pour éviter le pire.
Et aller voir les pharmaciens aussi.
Dire, voilà, est-ce que c'est vrai que nous, à l'époque, quand on ramassait des champignons sauvages, systématiquement, on passait à la pharmacie pour que le pharmacien nous dise si c'était comestible.
Moi, la bonne période, j'ai 20-40 paniers par semaine qui me sont venus, qui viennent à la pharmacie. Alors, avec des bons ou des mauvais résultats. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas non plus de manger systématiquement, c'est au moins d'orienter, de faire un diagnostic et de rassurer les gens, parce qu'on peut avoir des champignons dans son jardin aussi.
C'est ce que j'allais dire, dans le potager, on a déjà de belles choses aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut cueillir dans le potager de le plus simplement possible? C'est quoi? C'est le pissenlit, par exemple?
Alors, le pissenlit, le plantain.
Oui, le plantain, c'est ce qu'on appelle une mauvaise herbe qu'on voit dans le gazon, qui a des grandes feuilles larges, là.
Voilà, qu'on piétine, donc le nom de plantain, parce que c'est une plante de chemin.
On peut en faire des salades, de ça.
Des salades, et ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'on peut aussi laisser une partie de son jardin libre, sauvage, et voir ce qui pousse.
Et ben voilà, restez avec nous parce qu'on va continuer à observer la nature et on va vous aider à la cuisiner aussi, la nature. Mouron des oiseaux, caillée, l'achillée millefeuille et puis les champignons d'automne qui arrivent. La cueillette n'est pas finie, on revient juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Arnaud Ducret sera notre invité dans un instant, mais avant on prolonge les plaisirs de la cueillette avec notre invité Jean-Baptiste Coclair, pharmacien et passionné de botanique. Il vient nous voir avec un très beau livre qui sort le 10 septembre, « Des cueillettes et des hommes » aux éditions de La Martinière, 70 herbes, fleurs, baies et champignons, avec des recettes de chef, on va en parler aussi dans un instant. Jean-Baptiste, vous êtes venu avec un petit panier ce samedi matin, qu'est-ce que vous avez avec vous, racontez-nous.
Je pensais à ça,
le
mouron des oiseaux, le mouron blanc, ce mouron des oiseaux, confondre avec le toxique mouron rouge. C'est une espèce très intéressante parce qu'elle pousse aussi comme ça, de façon au hasard dans nos jardins. Très très bonne petite herbe, alors en salade. Et le mouron, ça vient de quoi? C'était un plat de disette. Quand il y avait les famines, on se jetait un peu sur le mouron, c'est un peu un ersatz, vous me dire. Un suqué d'année de salade fraîche. Et c'est pour ça d'où vient l'expression « ne faites pas de mouron ».
Il ne faut pas se faire de mouron.
On ne se fait pas de mouron. C'est ça, cette petite plante sympathique.
C'est une tige verte avec des petites feuilles. On pourrait dire quoi? Que ça ressemble à une branche de basilic nain, pratiquement. Petit peu. Ce serait ça, si on voulait s'en rapprocher. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Amis auditeurs, que vous pourrez cueillir ce week-end.
Moi, j'aime bien en forêt, en lisière de forêt, même des talus, on a la berce. La berce commune,
ça, c'est très bon.
C'est génial parce qu'on a ces petits goûts d'agrumes en écrasant les graines.
Même des fois un peu de noix de coco aussi.
On a de l'exotisme dans nos campagnes. C'est ça qui est fascinant, c'est quand on va en cueillette, on en a dans les yeux, on en a dans le nez, dans le goût. Dans
la berce, vous aimez la cuisiner, hein?
Oui, j'en fais un pesto, Laurent. J'en fais un pesto avec du vinaigre de cidre, un peu d'huile d'olive, quelques noisettes concassées. Et ça, déposé sur du riz ou déposé simplement sur une pâte, voilà, ça vous donne un arôme totalement différent.
C'est vrai que c'est incroyable.
C'est un arôme,
il y a l'amertume et un côté fruité d'agrumes qui est très présent.
Et sur fin de bouche, on arrive à avoir ce côté noix de coco qui est très agréable.
C'est vrai, à la fin, oui.
Et là, elle est très fréquente en ce moment. C'est une apiacée, donc c'est...
On la trouve où?
En bordure en lisière de forêt. Très facile, très facilement accessible.
Décrivez-la, tiens, à l'œil pour qu'on puisse la reconnaître. On vous la mettra sur europe1.fr.
On a des grandes ombelles, un peu comme la carotte sauvage, en fait. Avec ces graines plates. Et on l'appelle aussi pâte d'ours, parce qu'on peut manger les jeunes pousses. On peut manger les jeunes pousses, qui sont très, très bonnes. On a aussi... Mais l'achillée millefeuille, c'est...
Vous la cuisinez dans le livre.
L'achillée millefolium. Et ça vient de là, l'expression fine herbe. Fines herbes.
Ah, ça vient de là.
Et on a fait l'omelette aux fines herbes avec l'achillée millefeuille.
C'est ça, dans votre livre, il y a une omelette aux fines herbes, enfin justement avec l'achillée millefeuille. C'est ça qui est une grande tige. Ça ressemble à quoi? Un grand brin d'aneth, non?
Voilà, c'est une feuille très très découpée avec aussi une inflorescence très très intéressante aussi. Je l'avais là, je l'ai ici. On peut travailler aussi les fleurs, on travaille les feuilles. Donc là, c'est l'inflorescence, les fleurs d'achillée millefeuille, ça c'est ma petite...
Vous parliez de la carotte sauvage, c'est une confusion avec la carotte sauvage qui a provoqué un accident dans un stage de survie cet été dans le Morbihan. Un jeune homme de 26 ans quand même qui est mort en dégustant. Alors c'était quoi comme plante qui ressemble à la carotte sauvage?
La ciguë. Alors la ciguë qui est glabre, donc sans poil, et qui a une tige tachetée. Là je crois qu'ils ont fait une erreur gravissime. On n'est pas des apprentis. Moi, je ne suis pas un gourou, un druide. J'ai des fondamentaux, j'ai appris les choses.
Vous êtes un pharmacien.
Voilà, donc j'ai une rigueur quand je emmène les gens en cueillette. Voilà, on n'est pas des mange-tout. On est là aussi pour découvrir le bon, le mauvais, faire le tri. Et la forêt n'est pas un self-service, n'est pas un garde-manger.
Vous faites de grandes balades, effectivement, avec des particuliers qui peuvent venir avec vous en cueillette dans vos forêts, mais vous allez cueillir avec des chefs aussi. Mmh. On retrouve ces chefs hein, dans ce livre. On retrouve Florent Ladenne, Damien Laforce, par exemple, ou Pascal Lefebvre. C'est un bel échange, j'imagine, entre le cuisinier et le cueilleur que vous êtes.
C'est joindre l'utile à l'agréable pour moi. C'est vrai que partir en cueillette et revenir et créer une assiette, et des chefs le magnifique sauvage. Et moi, pour moi, c'est une récompense. Et c'est leur montrer aussi qu'on a du sauvage accessible et généreux en goût aussi.
On parle des chefs cueilleurs, Charlotte.
Oui,
alors, on pense tout de suite à Marc Vera, mais avant Marc Vera, il y avait
Brasse.
Michel Brasse, bien sûr.
Hein. Son gargouillou, la prairie dans l'assiette, tout de même.
C'est magique, magique.
Hein. Et puis, on peut aussi parler des Marcondes, d'Emmanuel Renaud, d'Edouard Loubel, Jean Sulpice, Mauro Colagreco, il y en a vraiment
se
de plus
tôt.
En plus.
C'est des chefs qui se lèvent tôt.
Exactement.
On se lève tôt aussi en ville, mais on n'a pas la chance d'avoir
des chefs. On se couche tard, mais c'est des lève-tôt. Et c'est vrai qu'on ne va pas les reciter, mais ces chefs-là, ils sont fiers de leur terroir, ils sont fiers de leurs producteurs, ils sont fiers des artisans avec qui ils collaborent, ils sont fiers de leur environnement.
Qu'est-ce qu'on peut ramasser en ville? Il a raison, Yves Candebord, c'est vrai.
Je vais dire, on peut tout trouver, mais on va éviter. Pourquoi la pollution,
pollution,
les particules?
Oui, mais les squares ne sont plus traités maintenant.
Alors,
donc
ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut avoir peut-être une serre, une protection minimum. On peut avoir des jardins suspendus,
ah oui,
voilà.
Ça, on a.
Mais faire attention, il faut quand même des analyses, je veux dire. Toujours pareil, il peut y avoir des dépôts, malheureusement.
Ouais, cueillons bien et mangeons bien. Des cueillettes et des hommes, c'est le titre de votre livre aux éditions de La Martinière, Jean-Baptiste Coclair. Il y a une fiche descriptive de chaque plante. On peut les reconnaître. Quand on a un doute, évidemment, on va chez le pharmacien. On ne cueille pas et on ne mange pas n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est une belle ode à la nature. Merci Jean-Baptiste Coclair.
Merci
et bon
à vous.
Vent à ce beau livre.
Merci pour
Après
cet accueil.
La cueillette, on passe en cuisine. Et un bel invité va se mettre à table avec nous. Le comédien Arnaud Ducret nous rejoint. Il est bientôt midi. Les amis, c'est l'heure d'ajouter un couvert pour accueillir notre invité. Originaire de Rouen, les Français l'ont adopté avec la série Parents mode d'emploi. Aujourd'hui, il fait partie de la famille, du one-man show au cinéma, en passant par la télévision. Son appétit est aussi grand que lui. Rôle principal de Divorce Club, la comédie de l'été. Il revient bientôt au cinéma avec Tendre et saignant dans un rôle d'un boucher. Il sera un homme ordinaire sur M6 le 15 septembre. Eh bien, en attendant, on a réussi à le trouver. Il est là, il est avec nous. C'est Arnaud Ducret. Bonjour Arnaud.
Bonjour, je suis en train de manger.
En fait, c'est les mecs d'habitude, mais de l'eau et un café, là, t'as une côte de meuf, j'ai un soufflé.
C'est la seule émission, effectivement, où on peut parler la bouche pleine. Pourquoi je vis aussi sur TF1 le 7 septembre, vous jouez le rôle du papa
de Grégory Lemarchal.
De Grégory Lemarchal, un très beau
Pierre Lemarchal.
Ouais, très beau biopic. Vous serez dans votre one-man show au théâtre à l'ouest de Rouen en octobre.
Mm-hmm.
C'est un appétit de gargantua, tout ça.
Bah, c'est-à-dire que là, j'ai des énormes moments de stress avant de m'endormir en me disant oh, mais attends, parce que en fait, on finit d'écrire avec mon co-auteur Tom Villa. En fait, voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, je vais tourner un Captain Marlowe là en septembre. Donc je me retrouve avec très peu de fenêtres de tir pour pouvoir travailler et finir de construire ce spectacle. Mais on va y arriver.
On va y arriver. Quel est votre goût de la semaine, vous qui êtes un bon mangeur, Arnaud Ducret?
Alors j'ai un goût de la semaine qui est c'est basique, hein, mais c'est melon basilic. En fait,
c'est un bon basique.
C'est parce que c'est associé à une histoire incroyable. J'ai eu la chance de déjeuner avec Jean-Paul Belmondo l'été et je me retrouve avec Jean-Paul Belmondo à manger ce melon basilic et on a une vue sur la baie de Cannes. Je rentre dans la villa. Il y a la Cadillac du Cornio, vous savez, la Cadillac blanche qui est garée.
Avec le Yukon-Koon.
Voilà, je rentre dans ces villas. Donc moi, je suis là dans un rêve total. J'arrive vers Jean-Paul Belmondo qui est là, assis au soleil, qui est en train de prendre un bain de soleil parce qu'il adore ça. J'arrive vers lui, je suis bonjour Jean-Paul. Il se retourne, il me fait je vous regarde tous les soirs. Et je trouve ça super. Mais je suis sur un nuage.
Et quel pied.
Et à quel pied, exactement. Et je déjeune avec lui et ma femme, ma fiancée Claire Francisi, fait de la pole dance. Elle a une école de pole dance, voilà.
Absolument,
école de pole,
oui.
Ouais. Et je lui dis, ma fiancée fait de la pole dance. Donc attention, parce que Jean-Paul, il a vieilli, il n'a plus toute sa motricité, mais par contre, oui. Il n'a pas perdu son œil qui pétille.
Son œil coquin.
Son œil coquin, il me regarde, il me dit, ah bon. Et je lui dis,
démonstration.
Bah, je dis, Jean-Paul, je vous montre Instagram. Donc il regarde les vidéos, il fait, ah oui. Et là, je le regarde, parce que je vois qu'il a l'œil qui pétille, je le regarde et je lui dis, Jean-Paul. Je passe des bonnes soirées. Et là, il me regarde, il me fait « Tu m'étonnes ».
Et tout ça devant un melon basilic, avec le magnifique.
Avec le magnifique. Donc ça c'était un souvenir incroyable.
Ça, c'est un bel été. Vous êtes plutôt restaurant ou plutôt je cuisine à la maison, Arnaud Ducret?
Plutôt restaurant. Et d'ailleurs, pour vous donner, je vous rends compte, je suis un peu en régime, comme je vous le dis, et j'ai ma fiancée. Je sais que là, je l'ai vue.
on a tous nos tracas du travail, du stress, et je lui dis, t'inquiète pas, samedi, on va au resto. Ah, bon, bah ça me met de bonne humeur.
Et voilà, c'est vrai que c'est le dernier endroit de fête pour l'instant, le restaurant dans lequel on peut se retrouver entre amis.
Un moment social, c'est-à-dire que tu te dis, la sociabilité est revenue parce que tu demandes une mozzarella tomate. Quoi.
Alors pendant le confinement, comme de nombreux parents, vous avez cuisiné à quatre mains avec votre fils Oscar, qui est avec nous d'ailleurs.
Oui, il est là,
en régie.
Il vous adore.
Salut Oscar, c'est vrai, c'est un gentil bonhomme. J'ai vu qu'il m'avait envoyé des vidéos, effectivement.
Attention, Non, mais parce qu'à chaque fois quand je vous regarde, je dis, je le connais, Laurent. Et tout, et on avait fait un beau déjeuner ensemble, je me rappelle, c'était superbe ça, à la campagne et tout. Et je lui dis, je le connais. Alors quand je lui dis que je venais ici, il m'a dit, je veux venir. Et à chaque fois qu'il vous voit, il me dit, regarde, c'est tam 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 tam.
C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez cuisiné quoi avec lui? Des gâteaux?
Non, mais des gâteaux. Alors c'était surtout d'ailleurs ma fiancée qui le faisait avec lui parce que moi, il aime bien. De toute façon, on avait que ça à faire, j'ai envie de vous dire. Et puis les devoirs, parce que.
Un petit peu quand même.
Ouais, un peu beaucoup quand même, que j'ai essayé de tenir le coup, mais c'était les moments de détente, c'était la cuisine, effectivement. Alors, les gâteaux au chocolat.
À propos, on le dit souvent ici, la transmission est essentielle, Yves Candebord. Alors avant que les enfants soient chargés de devoirs, Yves, vous allez nous donner des idées pour les occuper en cuisine, mais attention, avec des conseils de chef. C'est quoi déjà, entre guillemets, les règles pour concerner les enfants et pour les mettre à la cuisine?
Alors, déjà, en tant que parent, je pense que c'est une obligation. C'est l'éducation du goût. Et ça, c'est une base importante de la vie qui va vous suivre en permanence de votre âge d'enfant, adolescent et adulte. C'est un bagage fondamental. Alors, ce que je pense, moi, c'est qu'il ne faut surtout pas pousser trop loin. C'est-à-dire, bien souvent, on a tendance à vouloir leur faire déguster un peu toutes les saveurs. Il ne faut pas forcer, il faut laisser faire, il faut les amuser. Il faut leur faire comprendre que la cuisine, ce n'est pas une tâche.
C'est ludique.
C'est un jeu, c'est du bricolage. On va prendre des ingrédients de couleurs différentes, de formes différentes, on va les assembler, on va les sauter, on va les couper. On va s'amuser avec.
Alors attention, il n'est pas question de cuisiner la même chose pour toutes les catégories d'âge, si on veut les mettre à la cuisine. Pour les 3 à 6 ans, par exemple, vous auriez quoi?
Alors j'ai envie de vous dire, on va commencer plus tôt. À 1 an, la chaise haute,
oui.
On les pose à côté de soi, on leur met une écuelle ou une bassine en plastique avec une cuillère.
Ou une casserole bouillante.
Non, pardon.
Surtout pas.
Et vous allez voir, les enfants, ils sont heureux d'être là, ils vont faire les mêmes gestes que les parents. Ils vont taper dans cette petite gamelle. Après, ce que j'aime, moi, avec les tout-petits, c'est leur faire écaler des œufs. Faire un œuf dur et on leur fait écaler. C'est précis, ça leur permet d'avoir un travail de précision manuel.
De 3 à 6 ans, on peut faire.
Quand c'est tout petit, c'est très agréable. Et après, il faut s'amuser, il faut les faire jouer. Je me suis amusé à faire la souris que je faisais à mes enfants. Regardez, Laurent.
Oh, elle est mignonne.
J'adore.
Elle n'est pas verte, elle est blanche,
elle est un ours, le mec qui couvre.
C'est très facile à faire et ça a des bonnes raisons. Déjà, je me suis permis de mettre des amandes. Je vais leur faire déguster des amandes.
En oreille.
Les petits yeux, c'est des petites capres. Je vais leur faire déguster des capres.
Ah oui, l'acidité. Voilà.
Acidité. Après, il y a une baie rose et des petites brindilles de thym. Mais le fait que ce soit eux qui le fassent, ils vont le déguster avec plaisir. Ils sont heureux parce qu'ils ont fait une création. Ils ont eu un peu d'autonomie. Ils se sont permis de s'amuser avec. Donc, ils vont le déguster avec grand plaisir.
Vous avez eu ça, cet apprentissage comme ça avec vos parents, Arnaud Ducré, la maison?
Non, j'ai pas eu ça, moi. Ma mère, alors, maman, je t'aime, mais ma mère cuisine, mais c'est pas une grande cuisinière. Mais tu cuisines bien. D'ailleurs, je peux le foutre de ses plats, mais je sens un peu trop cuit tes pâtes. Oh, bah oui, mais bon, écoute, ça va.
Oui, ouais, ça me rappelle.
Non, j'ai jamais eu cette éducation. J'ai pas eu cette éducation-là. Mais j'ai quand même eu. Ma mère aime bien. On a une famille, on aime les tables. Se mettre autour, manger, et ça j'ai gardé.
La réunion et le partage, ça vous l'avez, absolument, vous le pratiquez très bien. Pour les 7-10 ans alors, comment on s'y prend?
On va prendre une pâte à pizza, une pâte à pizza déjà étalée, ronde, on va leur mettre tout autour des ingrédients, et pas toujours des ingrédients auxquels ils sont habitués de manger, ça peut être du maïs, des morceaux de champignons, du jambon, du gruyère, et surtout très coloré, et on va leur dire de préparer eux-mêmes leur pizza. Ils vont s'amuser à faire une pizza artistique.
Oui, puis ils vont pouvoir jouer avec
jouer
la garniture, on met ce qu'on aime
formes.
Aussi. Oui.
Et ils vont mettre ce qu'ils aiment, et même des fois ils vont mettre des ingrédients qu'ils aiment moins, mais parce que la forme et la couleur est jolie, ils vont l'utiliser.
À leur façon. Pour que ça leur plaise à eux.
Et pour les ados, les pré-ados, les plus de 11 ans, tiens, on peut les faire un petit peu bosser en cuisine pendant que ce temps-là on est dans le canapé. Nous, qu'est-ce qu'on peut leur faire
là, j'ai l'air à table, Laurent. J'ai l'air à table qui marche tout le temps. C'est la paella. C'est d'une simplicité. 100 grammes de riz par personne. On mesure une fois et demie en liquide par rapport au poids du riz. Donc pour 100 grammes de riz, 150 grammes de liquide.
Très bien.
On partage le liquide en deux, de l'eau et de la tomate. On prend une casserole ou une poêle qui va au four, de l'huile d'olive. On fait revenir délicatement son riz. Dedans, je vais y mettre des crevettes ou des morceaux de poulet. je vais rajouter un peu de chorizo ou du jambon. Je mouille avec mon liquide, je porte à ébullition, je mets au four 12 minutes, je sors des amandes grillées pour se dessus et j'ai un plat de partage, un plat familial. Pendant que je regardais mon match de foot à la télé, mon plat m'arrive devant, tonton, tati, le frère, la mère, tout le monde est heureux.
Et une paella pour la 12.
Il y a une vraie fierté d'avoir cuisiné pour la famille.
C'est vrai.
Et en plus, Laurent, c'est inratable, 12 minutes de cuisson, c'est bon, c'est un produit, le riz. Accessible à tout le monde et à un prix hyper modéré.
Vous allez faire ça à la maison avec Oscar.
Mais en tout cas, je vais le faire tout seul pour ma fiancée. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais dès que je lui fais à manger, un petit truc, tout d'un coup, je prends un bonus de dingue. Je suis le mec le plus sexy du monde. Je suis le mec le plus beau du monde. Donc là, c'est tout simplement pour ça que je vais faire à manger.
C'est vrai, les filles aiment les hommes qui cuisinent. Mais c'est important de cuisiner avec les enfants aussi. Vous avez raison, Yves Candebord.
Et peut-être le plus important, ne pas oublier, quand il fait sa pizza, de lui dire je veux goûter.
Absolument.
Parce que ça, c'est une fierté pour eux. Et quand vous le mangez, qu'est-ce que c'est bon. Parce que ça aussi, je peux vous dire, pour les enfants, c'est un bien-être.
Oui, mais je ne comprends pas. C'est effectivement ce que vous disiez au début, pourquoi il y a aussi peu d'éducation au goût à l'école. Donc, je voulais parler de deux associations, l'école comestible et les petits tabliers qui font des ateliers d'éducation culinaire à l'école et en centre de loisirs. C'est très important.
On n'a pas fini de se régaler, hein, les amis. Le plat du jour nous attend et c'est un plat qui sent bon l'Italie pour vous, Arnaud Ducret. Un plat que vous pourrez refaire ce week-end, amis auditeurs.
Très bien.
Ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée, présenté par Fabienne Lemoyle. À tout de suite.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30. La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Installez-vous les amis, vous êtes ici chez vous, hein, vous le savez, nous sommes ensemble depuis 11h. Soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez. Nous avons fait nos courses dans les cabanes de bord de route, nous avons cuisiné les produits phares de l'été, l'aubergine, la tomate, la figue. Et nous voilà à table avec notre invité, le bon vivant Arnaud Ducret. Bientôt au cinéma dans Tendre et saignant qui sera présenté en avant-première le 3 septembre à Cognac. À la télévision dans Pourquoi je vis sur TF1 et le 15 septembre dans Un homme ordinaire sur M6. Autant vous dire qu'on va le voir presque tous les jours, Arnaud Ducret.
C'est ma mère qui est contente parce qu'elle me voit pas en ce moment. Donc elle allume la télé, elle dit « Ah mais il est là !»
Vous aimez passer du temps au restaurant, vous nous le disiez Arnaud. C'est d'ailleurs là que vous avez commencé à faire vos sketchs à 12 ans parce que moi je vous ai vu sur scène au Casino de Paris il y a quelques temps, ou à l'Olympia.
J'ai fait Casino de Paris, j'ai fait l'Olympia.
Je vous ai vu aux deux. Ouais. Mais une énergie de dingue et débordante sur scène. Vous parliez de Belmondo tout à l'heure, on s'en rapproche. C'est dans un restaurant que vous avez eu envie comme ça de vous confronter à cet univers-là ?
Ben, c'est pas dans un restaurant que j'ai eu envie de me confronter à cet univers-là, mais en tout cas, c'est en regardant Albert Dupontel jouer le sketch de Rambo quand j'étais gamin. Merci Patrick Sébastien. Je vois Dupontel et je dis waouh, c'est qui ce mec qui déboule avec oh, putain, j'ai vu un film, j'ai vu Rambo. Donc là, je vois ça et je suis gamin. Je dis, bon, j'aimais déjà faire rire les gens et attirer l'attention. Mais après, effectivement, j'ai un ami à moi qui avait une pizzeria, Michel Pinto, que j'embrasse. J'y allais souvent manger, on y allait souvent. Et il avait des escaliers qui traversaient tout le restaurant. Et souvent, je me mettais là, à l'âge de 12 ans, et je faisais le sketch de Dupontel. Donc les gens qui voyaient un gamin de 12 ans faire Dupontel et qui se tient les parties en faisant, oh putain, j'y vais un bon. Donc ça marchait bien quand même.
Dans l'embarras du choix d'Éric Lavenne, vous jouiez le rôle d'un chef cuisinier. Vous avez appris à cuisiner pour l'occasion, ça veut dire.
J'ai surtout appris pour Tendre et saignant de Christopher Thompson qui arrive, là où je suis allé voir Hugo Desnoyers, parce que c'est inspiré aussi de la vie d'Hugo Desnoyers. Donc j'y suis allé pour apprendre. Boucher parisien, j'y suis allé pour apprendre à déchiqueter, à vendre, voilà, pour avoir un peu l'ambiance que Hugo, le geste et que l'ambiance que Hugo a dans sa boucherie incroyable, qui fait aussi table d'hôte, voilà, où tu vas.
Oui, on peut
voilà,
manger une belle grillade. Ouais. Alors c'est l'heure du plat du jour, tiens, ce midi sur Europe 1, un plat que vous pourrez refaire ce week-end, chers auditeurs. Est-ce qu'il y a un plat qui vous a marqué cet été? Par exemple, Arnaud Ducret.
Pâte aux palourdes avec José Dayan.
Ah, José Dayan, grande réalisatrice, absolument.
Avec qui j'ai travaillé chez Marius et Jeannette. Et c'était drôle parce que José arrive aussi avec sa boîte de cigares et tout, voilà, avec une énergie folle. Je ne la connaissais pas, moi. Enfin, je connaissais José Dayan, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et donc là, elle me dit qu'est-ce que vous voulez manger? Je dis moi, je vais manger ça, les pâtes aux palourdes et tout. Et moi aussi, alors, le serveur arrive et là, lui dit bon, alors, attendez, je vous explique. Hein, c'est moi qui vais expliquer au cuisinier comment il faut faire parce que moi, ma grand-mère était napolitaine. Donc je vous dis voilà, ça va se passer comme ça. Quoi. Donc elle a dit au chef, comment faire les pâtes, et elles étaient très très bonnes.
Alors figurez-vous que José Dayan est une fidèle auditrice de notre émission, et elle aime cuisiner, elle est avec nous au téléphone pour nous donner la recette de ces fameuses pâtes aux palourdes. Bonjour José Dayan.
Bonjour, merci de m'inviter.
C'est un plaisir.
Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous avez dit, c'est que je suis une fidèle auditrice. Il y a quelque chose de faux, c'est que je ne fais pas la cuisine, voilà, ça c'est très clair.
Bah, les pâtes aux palourdes, vous avez l'air de maîtriser en tout cas.
Oui, mais parce que ce sont les plus simples à faire, voilà.
Et c'est le plus simple que dur à faire. Hein.
Oui, oui, on vous écoute.
Je salue Arnaud Ducré. Bonjour. Je suis très heureuse de travailler avec vous.
Moi aussi.
Et voilà, c'était un moment très sympathique. Oui. Alors, les pâtes aux palourdes, c'est... Vous faites bouillir de l'eau, évidemment, qu'il faut saler l'eau des pâtes, parce que les pâtes, ça ne sale pas après, mais avant.
Voilà, c'est ça, je me souviens.
Voilà, ça, c'est essentiel. Il faut qu'elles soient al dente. Alors ça,
c'est la base.
Vous les goûtez, hein, et puis voilà. Et puis, il ne faut pas que ça dure une demi-minute de plus,
nano-minute
de plus. Voilà. Et puis, vous mettez dans une poêle de l'huile, de l'ail, un petit peu de piment.
Oui.
Et vos palourdes que vous allez jeter dans cette poêle, qui vont donc s'ouvrir naturellement. Il va y avoir un peu l'eau des palourdes qui vont sortir. Vous arrosez avec un verre de vin blanc. Vous rajoutez un peu de persil, si vous voulez. Moi, je déteste le persil, mais bon. Bref.
Oui, il y a des bains, vous avez raison.
Et puis voilà, et c'est très bon. Et c'est très léger, c'est estival.
Eh bien, José, je peux vous dire que c'est la recette authentique que vous venez de nous donner, des fameuses linguine ou spaghetti à l'évangolé, qui est une vraie recette italienne. Et vous qui avez des origines, comme vous le dites, napolitaines, là, vous êtes
alors,
dans les règles
de l'art. Arnaud aussi a un peu fourché. Ma grand-mère n'était pas sicilienne. Ma grand-mère était napolitaine.
Oui, j'ai dit napolitaine.
Naples, c'est Naples. Hein, voilà.
Ouais. Et voilà, pas de blague. Hein. Et voilà, j'ai perdu un rôle à cause de vos conneries, Laurent.
Mais je suis très heureuse, grâce à votre émission, Laurent, d'avoir l'occasion de parler à nouveau avec Arnaud.
Voilà. Bah, moi aussi,
merci de m'avoir invité.
Et bah, je vous lance l'invitation pour venir nous voir en studio et partager une bonne table. Vous avez votre ronde serviette à cette table, José. Et d'ailleurs,
ah,
vous venez quand vous voulez.
Je viendrai.
Et on va prendre date. On vous embrasse et bonne cuisine. Elle maîtrise bien pour quelqu'un qui ne cuisine jamais, quand même.
José, ça déconne par là. Elle m'a dit, alors je tiens à dire.
Oui. Quelques bonnes adresses en France pour déguster des linguinés ou des spaghettis à l'évangolé. Charlotte.
Allez, la semaine prochaine, mercredi et jeudi prochain, goûtez celle de Georgiana View, qui va nous faire spécialement les siennes dans le restaurant pop-up de la Criée à Marseille.
Ah, c'est bon, on prend ça, Yves Candebord.
Et à Blainville-sur-Mer, dans le Cotentin, un lieu paradisiaque sur la plage, sur la cale, ça s'appelle le restaurant de la cale. C'est pareil, c'est très simple, mais c'est tellement bon.
Eh bien, moi, les palourdes à l'évangolé, vous pouvez les déguster chez les Vitelloni à Paris, rue du Pitouard, près de la place de la République. Tiens, à propos de restaurants, comment vont-ils nos restaurants? Charlotte, vous avez fait un bilan. On en parle juste après ça, toujours avec Arnaud Ducré.
Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ce samedi, le comédien Arnaud Ducré taille la bavette avec nous. Et à propos de bavette, vous jouez le rôle d'un boucher dans le film Tendre et saignant, présenté en avant-première le 3 septembre à Cognac,
oui.
Arnaud Ducré.
Monsieur Besnéard a aimé le film et nous a dit que ce serait formidable de faire une projo avec Géraldine Pellas, avec Christopher Thompson à la réalisation, Stéphane De Grotte aussi. Voilà, c'est une histoire formidable. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que Christopher a su reproduire ce qu'était l'ambiance de la boucherie, par exemple, d'Hugo Desnoyers. Mais ces artisans incroyables, c'est un métier noble et qui nous nourrit depuis des années et qui ils ont un respect. Voilà, c'est des bouchers qui ont un respect de la viande, c'est-à-dire avec des éleveurs qui ont un respect
de l'animal,
du bien-être et aussi de l'être humain, parce qu'ils nous donnent des choses qui sont à manger a priori très très bonnes. Ils font attention à tout ça et c'est ce qu'il a reproduit ça dans ce film, vraiment.
Vous parlez là d'Hugo Desnoyers qui est un grand boucher. Il y a de grands bouchers aussi en province qui travaillent avec leurs propres élevages. C'est vrai qu'à une époque où on nous incite à manger moins de viande mais de meilleure qualité, on se rend compte, Yves, que voilà, il faut mettre un peu plus le prix sur une bavette, sur un faux filet, mais qu'il y a aussi des bas morceaux qui coûtent moins cher et que c'est une nouvelle façon de s'approprier la viande aujourd'hui avec ce qui se passe autour du bien-être animal aussi.
Oui, bien sûr, on est tous contre la surproductivité qu'il y a autour de la viande animale et tout ce qu'on peut voir. Tous les professionnels sont unanimes et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des artisans bouchers ou charcutiers qui ont un respect et qui font un travail d'orfèvre, en respectant entièrement l'animal, en faisant attention du début de la chaîne jusqu'à eux, que tout l'animal soit respecté et qu'on arrive à avoir de la qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez raison, Laurent, mangeons moins, mais mangeons mieux.
Alors, on va retourner au restaurant maintenant, parce que c'est vrai que le métier de restaurateur a été malmené avec la crise du Covid. Où en sommes-nous aujourd'hui? Cet été a été bon pour certains, catastrophique pour d'autres. C'est le moment de faire un bilan avec vous cet été, côté Covid au restaurant, Charlotte Langrand, devant Arnaud Ducré qui adore aller au restaurant.
Oui, c'est ça. Avant l'été, on redoutait ici même un été assez meurtrier à Paris et on ne savait pas trop comment les Français allaient réagir après cette crise sanitaire. Le bilan est en effet assez contrasté. Hein. Donc, dans les lieux de vacances, la saison, elle s'est plutôt pas trop mal passée, elle n'est pas si mauvaise. Les Français, ils ont répondu présent à table. En plus, ils sont fidèles. Ils vont plutôt dans les établissements qu'ils connaissent. Par exemple, en Corse, moi, on m'a dit que les saisons étaient peut-être même meilleures que l'année dernière, en juillet et surtout en août.
Gros succès sur le littoral aussi.
Voilà, hein. Sur le littoral, les Français se sont même fait assez plaisir hein, dans cet été qui est un sas de décompression après le confinement et avant une rentrée assez incertaine. Et donc, le ticket moyen, il aurait même augmenté de 5%. Donc, les gens se sont fait plaisir. Il faut aussi dire que les restaurants, c'était devenus un peu les seuls lieux de sortie qui restaient pour les Français, puisque les boîtes de nuit étaient restées fermées. Donc, le littoral, les restaurateurs ont donc limité un petit peu la casse.
Oui, mais c'est hélas pas le cas pour tout le monde. Non. Certaines régions, effectivement, voilà. Même à Paris. Hein,
à Paris, ils ont dû prendre sévère.
Voilà. Il n'y a plus de touristes. Quoi. Ouais,
c'est exactement,
et plus de Parisiens.
Et plus de Parisiens qui étaient partis.
Exactement, très compliqué dans les grandes villes, Bordeaux, Nantes, Lyon et surtout Paris. Imaginez donc un été sans urbain, partis en vacances, sans touristes étrangers pour compenser. On rajoute à ça une clientèle de bureaux en télétravail qui s'est donc faite rare au déjeuner. Ouais. L'équation était plutôt difficile. D'ailleurs, il y a 20% des restaurateurs parisiens qui ont préféré ne pas rouvrir du tout avant septembre. Pourtant, à Paris, Laurent, je ne sais pas si vous avez vu, le paysage avait quand même un peu changé. Il y avait ces fameuses extensions de terrasses qui étaient souvent joliment aménagées.
Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. On peut plus se garer, bordel.
Ça a un peu râlé, effectivement. J'ai rien dit. Il y a eu des piétonnisations de rue. Mais ça avait un petit air de vacances de Dolce Vita qui a participé quand même un peu à remplir les restaurants, peut-être plus au dîner.
Elles ont eu du succès, ces terrasses.
Oui,
hein.
Il y a quand même eu 8000 demandes d'extension ou de création de terrasses à Paris. Donc la mairie, elle vient d'annoncer qu'elle prolongeait leur autorisation et leur gratuité jusqu'en juin 2021 pour renforcer aussi en même temps la charte des bonnes conduites, hein, pour respecter le voisinage quand même. Tout cela pour une raison bien simple. Il faut quand même continuer à soutenir les restaurateurs parce que si la crise sanitaire, on l'espère, finira par passer. La crise économique, elle risque de durer. Il y a quand même une bonne nouvelle. Le préfet de police de Paris, hein, il ne serait pas pour le moment favorable à l'interdiction, à la fermeture de l'ensemble des établissements à 23h, comme c'est le cas à Marseille.
Oui, dans les Bouches-du-Rhône même. Ouais.
Voilà. Il préférerait sanctionner, lui, au cas par cas, les établissements qui, justement, ne respectent pas les règles et qui se transforment un peu en boîte de nuit à partir d'une certaine heure.
Mais le problème aussi, c'est que je trouve que l'État, ou les patrons de restaurants maintenant, avec la crise sanitaire, ou les patrons de boîte de nuit, sont devenus des bandits. C'est-à-dire que les mecs viennent faire des contrôles. C'est normal, quoi. Il faut contrôler, mais on leur tape sur les doigts comme si c'était pas bien maintenant d'aller ouvrir un restaurant, de pouvoir malgré tout avoir un peu de sociabilité, de faire la fête ou en tout cas de manger. Alors il faut faire attention, mais enfin, pardonnez-moi, on laisse des mecs exploser des choses sur les Champs-Élysées, ça fait des années que ça dure, et là t'as des restaurateurs qui veulent juste travailler et les mecs ils viennent les voir en disant je te préviens, demain s'il y a encore un mec debout, on ferme. Il y a un moment, il faut un juste milieu aussi, quoi. C'est quand même dramatique, quoi.
Surtout qu'avec les terrasses à l'extérieur, Yves Candebord, ça permet là aussi d'être dans des règles sanitaires bien respectées, quoi. On le sait.
Elles ont sauvé beaucoup de restaurateurs.
Oui, je dis merci à Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui nous a permis de survivre. Alors, il y a des cas de figure bien sûr différents. Les gens qui ont la chance d'avoir une terrasse arrivent à survivre. Et malheureusement...
C'est pas le cas de tout le monde.
C'est surtout pas la majorité. Malheureusement, ceux qui n'en ont pas, c'est une catastrophe. Après, moi, je suis d'accord avec vous, quand on est un peu trop montré du doigt et qu'on a l'impression que l'épidémie vient de la restauration, de l'hôtellerie, il ne faut pas exagérer non plus.
Voilà. Après, en plus, les gestes sont respectés, on va le redire, cuisine, moi j'ai fait le tour de nombreuses cuisines cet été, avec la chaleur, les cuisiniers sont avec des masques, le personnel avec des masques, il y a du gel hydroalcoolique sur toutes les tables pratiquement maintenant, dans de nombreux bistrots et restaurants.
L'hygiène avec les normes HACCP, ça fait des années que c'est là. Le respect de l'hygiène dans 90% des restaurateurs, il est respecté. Il ne faut pas l'oublier.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Arnaud Ducré. On va se retrouver justement avec de la bonne humeur et du vin. Un vin de copain que vous nous avez apporté, Arnaud Ducré, et on vous tiendra bien entendu au courant régulièrement de la situation de nos amis restaurateurs. Ne bougez pas, on revient juste après ça.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Et oui, le temps passe vite à table. Dernière partie de notre émission avec le bon vivant Arnaud Ducré. Sur scène en octobre au Théâtre à l'Ouest à Rouen, au cinéma avec Divorce Club et bientôt Tendre et Saignant, et à la télévision sur TF1 le 7 dans Pourquoi je vis. Arnaud, vous nous avez apporté, avant de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants, un vin de copain, un vin qu'Yves Candebord vient de goûter et vient de faire chanter en bouche.
Hein, nos bouches. Comme on dit, c'est un vin qui a du corps.
C'est un vin qui a du corps. D'où il vient ce vin,
Languedoc-Roussillon, Mirmanda. Ça s'appelle Mirmanda. C'est le vin de mon ami François-Xavier de Maison, que vous connaissez bien, l'acteur.
Qui est venu à cette table et qui nous a parlé de ce vin qui était en élevage au printemps 2019.
Il est sorti. Je l'adore. J'en ai acheté une caisse. Et c'est aussi Dominique Laporte, qui est meilleur ouvrier de France, sommelier et champion de France, entre autres. C'est un magnifique vin artisanal. Voilà, la bouteille est à partir de 15 euros. Et il a une cuvée qui s'appelle Cybelle, un peu plus, une gamme en dessous, avec un prix un peu moins cher.
Et c'est sa première année, là.
Ça, c'est 2018, c'est sa première année, celle-ci. Ouais. Ouais.
Un côté fruits rouges, un petit peu presque pruneau aussi, un peu.
C'est pruneau, c'est fruits rouges très mûrs, quoi. On sent que c'est des vins où le soleil est présent. Voilà, c'est des vins qui sont très mûrs.
On le voit avec quoi, ça, Yves Candeborn?
Ça, je pense qu'il faut. C'est pas un vin de soif, c'est pas un vin d'apéritif. Mmh. Il faut aller sur un plat. Oh, une belle côte de bœuf.
Ouais, c'est pas un vin d'apéritif du tout. Non,
c'est un vin de table. C'est un vin de gastronomie, ce qu'on appelle.
Ouais, mais ça représente ce qu'est François-Xavier, pareil, qui est un grand connaisseur de vin, qui adore les tables, qui adore manger.
Qui se tient très bien à table, mieux à table qu'à cheval, comme disait Lino Ventura.
Mais j'adore ce qu'il. Là, il vient m'envoyer un message hier, ce matin, en me disant les gars, samedi prochain à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Toujours en train de faire des bouffes.
La ripaille, mais bien sûr. Ouais. Il est très, très bien.
Il est très bon. Il y a du blanc aussi. Il fait le blanc aussi, formidable. Voilà, Mirmanda, à côté de Perpignan.
Vous pouvez lui dire qu'on arrive samedi prochain.
On mettra les références sur europe1.fr.
Donc, sera très heureux de lui faire plaisir.
Les vins nature, bio, zéro pesticides, ont de plus en plus de succès. Vous en avez essayé, vous, de votre côté, Arnaud Ducré? Vous intéresse?
J'en ai déjà bu, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me tourne tout de suite. Non. Je suis assez basique, moi.
Parce que le monde change, on le dit régulièrement sur Europe 1, mais le monde du vin change également.
Oui.
Et ben, je vous offre, tiens, le guide des vins zéro pesticides.
D'accord,
qui vient de
merci.
Sortir aux éditions BBD.
Très bien, très clair.
Très belle sélection. Alors, ce n'est pas que des vins nature, attention, il y a des vins avec du sulfite, d'autres en ont beaucoup moins, mais c'est très très bien fait, effectivement. On a la photo de la bouteille, on a le taux de sulfite à l'intérieur, on a les modes d'élevage et ça permet de faire une belle sélection.
Merci,
vous l'offre, tiens,
c'est gentil,
pour
merci
vous,
beaucoup.
Arnaud Ducré,
merci.
Le guide des vins zéro pesticides.
Génial.
Et évidemment, on retrouvera la semaine prochaine les 2 minutes du vin avec notre camarade Olivier Pouls, qui n'est pas le dernier pour lever le coude, comme on dit autour.
J'adore
de...
les pâtes aux pouls.
Les pâtes aux pouls. Très, très bonne pâte.
Spectacle à partir d'octobre.
À Rouen. À propos de à propos de cuisine, Arnaud Ducré, une question à nous poser autour d'une recette. Alors, ou d'un truc, une astuce que vous aimeriez maîtriser.
Ouais, moi j'étais serveur, c'était mon premier boulot, enfin un de mes premiers boulots pour payer mes cours de théâtre, hein, comme beaucoup de comédiens. J'embrasse Philippe Simon, qui était le patron de l'épicerie rue Montorgueil, qui n'existe plus, mais voilà. Et on avait cette. Alors quand je démarrais, il y avait les pommes sarladaises. Et alors quand j'ai démarré le métier, souvent, d'ailleurs, le premier jour, on disait, mais le client disait, c'est quoi les pommes sarladaises? C'est des pommes, je ne savais pas. C'est les pommes de terre revenues dans la graisse d'oie, entre autres.
Il faut bien sécher les pommes de terre avant de les couper en rondelles. Et on les fait revenir sur un feu moyen vif pendant une quinzaine de minutes.
Voilà, bien les caraméliser.
Oui,
pour les caraméliser.
Et il ne faut pas les entasser, il faut qu'elles aient de la place toutes dans la poêle.
Il faut mettre une épaisseur fine dans la poêle, même à la limite, mieux vaut le faire peut-être en deux fois. Voilà, faire deux poêlées plutôt que faire une poêlée avec une grosse épaisseur. Et quand vous les avez bien caramélisées, qu'elles sont bien croustillantes, après, la petite astuce, quoi. Ouais, il ne faut pas avoir peur de les couvrir.
10-15 minutes.
Voilà, pour redonner de l'humidité.
Ouais.
C'est-à-dire que ça va redonner de l'humidité, quoi. Vous allez quand même conserver le croustillant, mais l'humidité va permettre d'avoir
d'accord.
une pomme beaucoup plus moelleuse.
D'accord.
Voilà. Et ben voilà, c'était les pommes merci. De terre sarladaises à la Yves Candeborde pour Arnaud Ducré. C'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, cher Arnaud Ducré?
Charlotte aux fraises de ma grand-mère, formidable. Alors c'était et alors j'en ai deux, c'est charlotte aux fraises et les crêpes au jambon de ma grand-mère, crêpes au jambon et fromage de ma grand-mère.
Ah,
elle
oui.
faisait ça avec des pas des galettes de sarrasin, des crêpes. Voilà, c'était la crêpe sucrée et le jambon dedans roulé. Enfin, c'était inimitable. Et de toute façon, quand c'est nos grand-mères qui nos grands-parents ou ma grand-mère qui le prépare, c'est toujours inimitable. Évidemment.
Mais nous sommes
quoi.
Bien d'accord. Et on n'arrive jamais à reproduire le goût en plus. Hein. Votre plus beau repas, tiens, dans le sens inoubliable.
Alors il y a celui de Jean-Paul Belmondo et j'en ai un extraordinaire qui était mon premier film d'Étienne Châtillièse et j'avais la chance incroyable de dîner dans le restaurant à l'époque, c'était le sien entre autres, d'Eddie Mitchell.
Oh.
Et je suis arrivé en retard, je me suis trompé de numéro. Alors je déteste arriver en retard. Je suis arrivé en sueur parce que j'ai couru toute la rue Saint-Honoré. J'arrive, j'ai dit bonjour, excuse-moi Étienne, je suis en retard. Et Eddie Mitchell me regarde et me fait tiens, assieds-toi, bois un coup.
Voilà, hydrate-toi. Votre pire repas?
Mon pire repas, c'est à côté du lycée Bruyère à Rouen. Il y avait un restaurant à côté qui était mais d'une saleté improbable et je me souviens de déjeuner là-bas parce que ma chérie était à l'école ici donc j'essayais de la récupérer. J'étais avec mon pote Mohamed que j'embrasse, on se connaît plus, mais il avait un G9 de son père qu'il avait gardé et en fait on boue dans ce resto dégueulasse avec un chien qui passe à côté. Je me rappelle, enfin tout était sale en fait. Je dis à mes potes, mais comment vous faites pour bouffer le midi ici les gars, c'est dégueulasse. Comme c'était que des lycéens puis qu'il y avait que ça, le mec ils en avaient rien à foutre, ils nettoyaient pas, mais les gamins payaient quoi. Et donc on s'est regardé, j'ai dit à mon pote, va chercher ton G9. ouvre la porte, coup de coulissant dehors, et on part en courant. Ce qu'il ne faut pas faire, évidemment.
Un restaurant basket.
Là, j'ai dit, je ne paierai jamais. Et on s'est levé. Bon, j'avais 15-16 ans, je crois. On s'est levé et on a couru dehors pour. Et on a pas payé ce restaurant. Je m'excuse auprès des propriétaires, ça ne se fait pas, mais bon, il fallait nettoyer.
Votre bande originale pour cuisiner, quand vous cuisinez, est-ce qu'il y a une bande son que vous aimez écouter?
Oui, bah, ça va être comme j'aime la bouffe italienne, le parrain, quoi.
Assieds-toi.
Il faut qu'on parle. J'ai besoin de parler avec toi. Tu as vu la maman hier, tu étais a priori dans le bar juste à côté. Il paraît que tu files avec les portoricains. Mais j'ai jamais fait ça.
Ah, vous le tenez bien, hein. Vous le tenez très bien.
Et après,
qui sont les invités de votre dîner idéal, Arnaud Ducré?
Je mettrais bien sans Marie-Thérèse, Clara Morgan. Non, je déconne, c'est vous pouvez faire disons sans Marie-Thérèse, Clara Morgan. Non, je mets Eddie Barclay, Quincy Jones, dont je suis très fan.
Ah oui.
Et Eddie Barclay, parce que les repas d'Eddie Barclay, d'ailleurs, Quincy Jones en raisonne un, mais il faisait des repas à l'envers, vous savez ça?
C'est qu'il
faisait.
Commencer par le dessert.
On démarrait par le digestif à poil. Donc tu mets à table
ça
à poil, tu démarrais par le digestif, ensuite tu remettais ton caleçon,
c'est drôle.
T'avais le dessert, tu remettais ton pantalon, t'avais le plat, finissais habillé. Il n'y avait qu'Eddie Barclay pour faire ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque pour bouffer un jour avec Eddie Barclay et Quincy Jones que j'adore.
Et votre adresse secrète, Arnaud Ducré?
Le bar des prés
de
Cyril Lignac, j'adore, qui est une magnifique adresse. J'adore aller me mettre sur le comptoir et prendre ses galettes d'avocat
avec
le tourteau, formidable.
Cuisine japonisante.
Une cuisine japonisante, c'est une très belle adresse et bravo Cyril Lignac.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Arnaud Ducré.
Rendez-vous demain pour une bonne bouffe autour d'une table.
On sera là. Et merci d'avoir
merci
été
beaucoup.
Là et à bientôt au cinéma, à bientôt sur scène à Rouen.
Merci beaucoup.
Merci Arnaud Ducré d'avoir été un bon vivant. Vous avez été le parrain, voilà, on a entendu la musique, vous avez été le parrain de la saison 3. C'est notre troisième saison et merci à vous, amis auditeurs, d'être là. Merci à toute ma fidèle équipe de m'aider à préparer cette émission. Rendez-vous
bravo,
sur
Laurent.
europe1.fr. Merci à vous pour les podcasts et les recettes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre bon vivant. Joe Star sera à votre place.
Jamais de la vie.
Si, il sera là, absolument. Soyez prudents.
Ramène du rhum.
Et cuisinant. Cuisiner. Il y en aura du rhum. Le journal de la rédaction arrive. Bon week-end sur Europe 1. Salut tout le monde.